Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Marie-Josette Liégeois prit l'habitude lors de ses déplacements à Paris d'aller rendre visite à son amant libanais qui l'attendait avec impatience et enthousiasme. Elle ne venait pas dans sa boutique de la rue du Faubourg du Temple, ni dans l'appartement qui le surplombait, car il ne le jugeait pas assez chic pour la recevoir. Il se donnait rendez-vous à l'hôtel d'Isly, rue Jacob, dans le quartier latin, où il pouvait s'adonner en toute discrétion au scénario savamment concocté par l'ostéopathe. Il lui arrivait aussi de la rejoindre quelques jours l'été à Saint-Tropez, où elle passait de courtes vacances avec une bande d'amis strasbourgeois. Il existait là-bas une plage dite de l'Escalet, avec des cabanes de pêcheurs qu'on pouvait louer pour un jour ou pour une semaine.
Vous écoutez les histoires à la loupe de Radio Courtoisie. Voici Marie-Josette Liégeois, deuxième partie, sur un récit de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Marie-Jo appréciait bien cet endroit car la crique escarpée rendait l'accès difficile. Et cette difficulté permettait de pratiquer le nudisme, encore que ce fût officiellement interdit. Mais c'est justement cette interdiction qui l'excitait. Elle aimait la braver et s'asseoir dessus et adorait se balader en tenue d'Ève sur cette plage, s'y montrer à tous, afin d'exhiber sa magnifique plastique dont elle n'était pas peu fière. Surtout quand celle-ci était ornée de quelques marques rouges ou traces violacées d'hématomes, pâles vestiges de ses nuits torrides. Et après de telles provocations, d'y recruter de nouveaux amants susceptibles d'adopter ses pratiques. Les bleus qu'elle arborait crânement lui servaient même de prétexte à conversation. C'était d'un abordage facile, le garçon l'interrogeait sur le motif de leur présence sur sa peau et elle sortait le poteau rose en désignant le coupable d'un index vengeur.
« C'est lui !»
Mais en donnant une précision curieuse du genre
« Il n'a fait qu'exécuter mes ordres. »
Ou
« Il m'a fait une belle décoration corporelle, vous ne trouvez pas ?»
Ou encore
« J'adore quand c'est bien rouge. »
Et là, de deux choses l'une. Ou bien le gus questionneur repartait intimidé, penaud ou dégoûté. Ou bien ça l'intéressait. Dans ce dernier cas, elle s'attachait à l'attirer dans ses filets pour un approfondissement plus sérieux du dossier. De sorte qu'au bout d'un certain nombre de saisons, la bande s'était étoffée de pas mal d'obsédés ou de gens étranges un peu allumés, garçons ou filles, qui s'étaient greffés sur le noyau initial. Khalil, en frayant avec cette faune que Marie-Jo lui avait présentée, se demandait parfois s'il avait bien fait de poursuivre cette liaison avec celle qu'il dut finalement se résoudre à qualifier de nymphomane. Anecdote par-ci, rumeur par-là au sein de la bande, il en apprit de plus en plus, et des vertes et des pas mûres, susceptibles de le refroidir, punaise. Mais il repensait alors à sa suprême beauté, à la fanfare municipale où elle régnait, et surtout à ses exceptionnels talents comiques et provocateurs, et il avalait tout de même la couleuvre. Parmi les habitués de la bande, il y en avait un qui émergeait du lot. Il faisait tache parce qu'il n'était pas du même milieu. C'était en effet le tenancier d'un camping qui se trouvait à proximité des cabanes de plage. C'est lui qui avait trouvé ces cabanes à louer aux Strasbourgeois et ils avaient sympathisé. un petit gros chauve à la voix criarde de Fauchet qui s'appelait Joe. Souvent, il portait un béret basque pour couvrir sa calvitie. Et c'était curieux de le voir en maillot de bain avec son béret. Il était dépourvu d'éducation. Pourtant, même s'il était rusto et manquait de manières, la ruse lui tenait lieu d'intelligence. Il savait voir les failles des gens et saisir les opportunités des moments. Sa façon de se comporter avec la liégeoise, son ton patelin, ses rires gras et insistants, ses tactiles approches lui donnant l'accolade par-ci ou la touchant furtivement par-là pour s'en éloigner aussitôt, en feignant d'être gêné. Tout laissa penser à Mahwood qu'il l'avait connu bibliquement, autrefois, et peut-être même encore aujourd'hui, et qu'il lui jouait une sorte de rôle sur catalogue. Ce qui agaçait Mahwood, c'était pas tellement qu'il ait été son amant, car il était loin d'être le seul. C'était plutôt ce petit jeu pré-programmé qui lui apparaissait comme une attitude convenue. Il la narguait, mais un peu comme si elle le lui avait demandé. Aussi, il ne put se retenir de lui dire
« Comment as-tu pu accepter avec un pareil goujat ?»
Il la regarda dans le fond des yeux et elle aussi. Après un moment de silence et voyant qu'il avait deviné, Marie-Jo partit d'un rire hystérique et en cascade. Puis répondit
« J'aime bien les goujats. Et celui-là, il a une manière de faire qui n'est pas la nôtre.
C'est quoi la nôtre ? »
Oh, disons la façon bien polie et sucrée des bons bourgeois.
Et lui, qu'est-ce qu'il a de si spécial qu'on n'a pas, nous, les bourgeois ?
Et il me tourne autour comme un fauve qui me renifle. Ça m'excite. Et puis, pour la castagne, c'est un pro.
Ah, Yanné, donne donc des détails.
Non, ces choses-là, je ne veux pas en parler.
Ça les démystifierait.
C'est mieux d'en préserver le mystère.
Préserver le mystère, tu parles,
pensait-il.
Elle a de ses façons d'évoquer ses marottes et obsessions qu'elle ne se gêne pas de le révéler à la plage.
Khalil était assez crispé par le style de ce rustre. Surtout depuis que Marie-Jo avait fermé la porte à toute discussion sur ce sujet. Il le voyait pourtant à l'œuvre, et cela ne faisait que l'horripiler davantage. Il le voyait notamment lui faire des clins d'œil ou lui enlacer la taille subrepticement et sans insister. Il le voyait emballer d'autres filles de la bande sans effort, alors qu'il était quand même vilain, ou au minimum peu distingué. Il l'entendait aussi parler à Miss Liégeois à la troisième personne. « Alors, la dame a passé une bonne nuit, elle a eu sa ration, sa bonne dose ?» Ou, plus subtil, « La dame est déjà sans rien par ce beau matin. Il lui faudrait un bracelet, ça ferait plus distingué. Ou un bijou à l'annulaire, ça ferait plus habillé. » Et après cette vanne, il partait d'un éclat de rire vicelard. Mahwood était d'autant plus irrité qu'il sentait que la liégeoise était envoûtée par ce langage agressif qui la provoquait, la picotait de-ci, de-là et remettait le couvert, rechargeait les batteries à des moments où, en principe, elle devait s'estimer vidée de toutes ses pulsions nocturnes. D'ailleurs, elle finit par suivre les recommandations comiques de Joe. Et en vint à plus s'habiller sur cette plage. Mais les colliers, chapeaux de cérémonie à large bord ondulés, boucles d'oreilles à pendentifs, chaussures à talons aiguilles, et même parfois, quoique plus rarement, les fines culottes noires très ajourées et quasi transparentes qui convenaient bien à sa peau mate, tout tous ces accessoires ne faisaient qu'accentuer, voire sublimer, sa nudité ostentatoire et suscitaient de la part de Joe des compliments non dénués d'ironie. « Ah, la dame s'est couverte aujourd'hui! Joli chapeau! Ça pourrait faire parasol !» Ou « Très bien, le slip qui ne cache rien et les ongles sont bien peinturlurés. Comme il se doit, faudra bientôt penser aux accessoires nocturnes. Rouge à lèvres, mouche aux joues, fond de teint, fossile. » Il persiflait, en plaisantant. Mais il y avait dans son ton quelque chose de légèrement impératif, comme si tout ça allait de soi et à quoi elle devrait se plier, que ça lui plaise ou non. De sorte qu'on ne savait plus trop s'il plaisantait pour de bon ou s'il donnait des ordres. Il arrivait même à Marie-Jo de s'habiller sur la plage d'une robe longue, figurez-vous, ce qui était inhabituel. Mais lesdites robes, beige ou noire, avaient été spécialement confectionnées pour elle et étaient constituées de petits carreaux suffisamment larges pour que l'on puisse tout voir de ses formes généreuses. En fait, cette robe était plus indécente que la nudité elle-même. Et quand elle en mettait une, c'était le signe qu'il y allait avoir, le soir, une grande fiesta. Anecdote par-ci, rumeur par-là, Khalil en a pris toujours un peu plus. On disait que ce n'était pas seulement un camping que Joe gérait non loin de la plage, de l'escalet, mais aussi un hôtel, l'hôtel de la Tortue à Toulon, un hôtel pas très recommandable, disait-on. Un hôtel où l'on pouvait faire des passes, et même des passes payées, bref, une sorte de bordel. On allait jusqu'à murmurer que la Liégeoise elle-même y aurait fait quelques séjours.
Un des Strasbourgeois aurait même poussé sa curiosité malsaine jusqu'à venir épier les abords de l'hôtel de la Tortue peu avant les vacances et prétendait l'y avoir vu faire les 100 pas dans la rue en perruque brune. Quand on lui objectait qu'il avait dû la confondre avec une vraie brune, que ce n'était pas possible, que jamais elle n'aurait pu accepter de se dégrader à ce point, pour un acte d'ailleurs, souvent réduit à sa plus simple expression, alors qu'au contraire, elle recherchait le fignolage copulatoire sophistiqué. Le gars n'insistait plus ou disait « Je me suis trompé ». Pourtant, elle lui ressemblait, de sorte que le mystère continuait de planer. Ça jasait, ça glosait, il y en avait même des tortueux qui disaient « C'est parce qu'elle doit aimer palper du pognon pour se faire baiser, ça doit l'exciter, et ceci et cela. » Évidemment, quand Marie-Jo se pointait, tout le monde la fermait. Car une bonne calomnie ne prospère bien que si elle n'est pas mise au grand jour, mais plutôt propagée mezzo voce.
Bon sang, c'est-il pas Dieu possible qu'elle se livra de telles infamies monnayées? C'était certainement une calomnie que des langues de vipère avaient colportée. Un jour, où il n'y tenait plus, le bijoutier mit sur le tapis l'affaire de l'hôtel de la Tortue, attendant, espérant, des dénégations véhémentes de la demoiselle. Et quelle ne fut pas sa surprise d'entendre la réponse qui tomba brute et sans fioriture.
J'en ai toujours eu envie.
Envie de quoi?
De faire le trottoir.
Stupeur et stupéfaction. Comment une bourgeoise sophistiquée et plutôt de la haute, spécialiste d'ostéopathie et tout, et au surplus percussionniste dans un orchestre municipal, aurait-elle pu s'abaisser à se livrer à une prostitution de bas étage? C'était ahurissant.
Donc cette rumeur était vraie?
C'est moi qui l'ai faite courir.
Comment ça?
Je suis sûre que tu y as cru et que t'es tombé dans le panneau.
Khalil n'y comprenait plus rien. Ainsi, cette rumeur était fausse et c'est Marie-Jo qui la propageait.
J'en ai toujours rêvé, mais je ne suis jamais passée à l'action.
Avoua-t-elle en souriant. Mais ce sourire était un peu étrange, énigmatique en fait. Et celui de Joe, quand il la regardait, l'était aussi. Était-ce si sûr qu'elle n'était jamais passée à l'action à l'hôtel de la Tortue? Ah, ce doute, ce doute! Une dizaine d'années passèrent, et Marie-Jo atteignit glorieusement la fin de la trentaine. Elle s'aperçut alors qu'il lui manquait quelque chose. En fait, elle manquait de mari pour avoir des gosses. Il était donc urgent d'en trouver un, car passé la quarantaine, ce serait plus difficile d'enfanter. Certes, ce ne sont pas les hommes qui faisaient défaut autour d'elle, car ils se pressaient tous au portillon pour la bousculer, vu sa vie tumultueuse, ou se partager ses faveurs. Mais quant à causer mariage, c'était une toute autre affaire, et là, ils étaient plutôt du genre évasif, voire fuyard. Tous, sauf un, Mahmoud. Il était toujours là. Il était toujours admiratif, toujours fervent et nullement découragé au bout de 10 ans.
Mais qu'est-ce donc qu'il avait de mieux que les autres?
Auraient pu demander les copines de la plage.
Il n'était pas plus charmant? Non.
Aurait pu répondre Marie-Jo.
Plus intelligent? Non. Plus énergique? Non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il était là.
Entre-temps, la relation s'était un peu approfondie. Même si Khalil n'était pas jaloux puisqu'il supportait sans difficulté cette situation consistant à partager sa jaugette avec bien d'autres admirateurs, il avait néanmoins des petites manies, comme s'il avait reporté sur les choses son attachement à l'exclusivité. En particulier, il tenait à avoir la propriété matérielle de certaines musiques et de quelques films, et il avait conservé, bien que ce ne fût plus à la mode, une collection de CD et de DVD qui les contenait. Quand on lui faisait remarquer qu'il lui était loisible d'y avoir accès par Internet ou autre moyen de communication moderne, il répliquait
« Peut-être, mais c'est fastidieux pour les retrouver, tandis qu'avec ça… »
Il montrait le coffret.
Pas de problème.
Si l'on objectait qu'il suffisait de taper ou de donner au téléphone le nom de la chanson ou de la musique ou de l'œuvre cinématographique pour en disposer automatiquement sans se mettre en peine de la rechercher, il disait
« Possible, mais ce n'est pas à moi et immédiatement disponible. C'est dans le domaine public. »
Son expression « domaine public » avait quelque chose d'un peu méprisant. Sans doute était-il habitué par son commerce à avoir des objets qui ne resteraient pas longtemps dans sa boutique puisqu'ils étaient offerts à la vente. Il faisait ainsi une distinction nette entre les bijoux qui étaient proposés à l'achat et les choses qu'il gardait, des formations professionnelles. Il préférait par exemple le Sacre du Printemps dirigé par Pierre Monteux, mais plus précisément l'enregistrement de 1913 qu'il avait réussi à se procurer, même si la prise de son était à cette époque moins bonne. Et si on lui signalait que justement le vieux film qu'il voulait, Vérité et mensonge d'Orson Welles ou Spartacus de Stanley Kubrick, pouvait se trouver sur Internet à la vente ou à la location, il prétextait que ces versions avaient été expurgées ou très légèrement censurées de scènes licencieuses de quelques quarts de seconde. Et même si on lui démontrait que ce n'était pas le cas, il prétendait avoir la version d'origine subliminale, disait-il. En fait, il tenait à disposer de sa collection personnelle, qu'il avait soigneusement classée par ordre alphabétique. D'ailleurs, quand il en extrayait un numéro, il sifflotait toujours et rituellement le même petit air lancinant. Paradoxalement, ces marottes loin de le ridiculiser aux yeux de Georgette et de la faire fuir, était au contraire fort appréciée car elle piquait sa curiosité toujours insatiable. Elle les percevait comme un signe d'originalité ou d'authenticité ou même de différenciation par rapport à elle-même car elle était plus moderne. Et justement pour cette raison, parce qu'elle était plus moderne, recherchait la compagnie secourable de personnes autres, s'attachant à éviter tout ce qui pouvait lui ressembler. De même, quand ils allaient danser au Papagayo ou au Bibelot, chez qu'une musique de rock'n'roll était exceptionnellement diffusée, il n'était pas question pour Khalil de s'y livrer banalement. Il tenait à le faire acrobatiquement et l'avait appris à Marie-Jo, qui se prêtait volontiers à ce genre de gymnastique chorégraphique, car elle lui permettait de mieux exhiber ses tournures corporelles et ainsi de se faire remarquer et mater par les mecs, surtout quand elle avait réduit au maximum sa tenue vestimentaire, ce qui était fréquent. Rock signifiait donc acrobatie, automatiquement et irrémédiablement. Il y avait ainsi une série d'incongruités, même dans le domaine sexuel, qui donnait à Khalil une spécificité. Si Marie-Jo était sensible à ses maniaqueries, c'est qu'elle avait une raison inavouée. Comme ils avaient l'un et l'autre, ou plutôt l'une plus que l'autre, une vie assez tumultueuse, la connaissance de ses habitudes lui paraissait une entrée secrète dans une sorte d'intimité avec Khalil qui venait racheter ses débordements sexuels tous azimuts. Ce
« rachat de la faute »
lui plaisait, comme s'il effaçait le reste et apportait une complicité, un partage qui plaçait Mahoud en dehors de la bande en lui donnant une sorte de supériorité. C'est elle qui proposa à Khalil de lui mettre la bague au doigt. Ce choix s'expliquait pour deux raisons. D'abord, il lui fallait s'assurer que l'époux tiendrait le choc des épreuves et s'occuperait bien des enfants, les orientaux étant plus doués pour cela que les occidentaux. Ensuite et surtout, il lui fallait rapidement mettre un terme définitif à la vie dissolue qu'elle avait menée jusque-là. Et Khalil, qui la connaissait depuis si longtemps, pourrait constituer une sorte de sas entre la vie d'avant et la vie future. C'est ce qu'elle se disait. Et en effet, elle arrêta tous ses excès du jour au lendemain. Et pendant plus de 15 ans, on ne la vit plus à Saint-Tropez, car elle se consacrait à ses enfants. Quand elle atteignit le milieu de la cinquantaine, les enfants étaient devenus des adolescents, presque des grands, et Marie-Jo entendit en son fort intérieur l'appel de la fanfare et du feuilleté à la crème. Toutefois, une nouvelle difficulté se présenta. Après cette sorte de retraite familiale pendant plus de 15 ans, Marie-Jo avait un peu perdu ses habitudes baroques et ses audaces excentriques. Par ailleurs, son intensité de libido avait nettement décliné faute de pratique. Certaines dames, pour renouer avec de tels vilains penchants, ont parfois recours aux hormones. Ce ne fut pas le cas de Marie-Jo, qui avait une meilleure solution, laquelle portait un nom, celui de Jo. Ce fut à ce moment qu'il lui téléphona.
Alors, après cette si longue absence, la dame serait-elle de nouveau disponible ?
Oui,
s'entendit-elle répondre.
Et même à l'hôtel de la Tortue ?
Même,
osa-t-elle répondre. Alors la question se pose dans toute son ampleur. Allait-elle reprendre du service à la Tortue ? Ah, ce doute.
Spending too much time away. I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home. 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 Yes, I am. All those letters every day, I may be all right in their way, but I'd love to see your face when I get home in their place. I'm going home.
Vous venez d'entendre la fin des aventures de Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Histoire à la loupe.